I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est parti. Vincent, nous, on est prêts.
1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.
Bon, c'est pas du direct quand même.
Ouais.
On fait ton live à la fin, ok?
Ok, ouais.
Bonjour à tous, c'est Ismaël, bienvenue dans ce nouvel épisode de Groover Tips. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage capital au sein de l'industrie musicale, un personnage qui génère beaucoup de fantasmes et d'idées reçues sur son pouvoir ou sur ses fonctions très larges. C'est le directeur artistique, le fameux DA, qu'on a pu retrouver dans la série validée récemment, jouée par la très déter Sabrina Ouazani. Alors, fiction ou réalité, vous saurez tout dans la prochaine demi-heure, c'est une promesse. Et pour m'aider à tenir cette promesse, je suis comme toujours accompagné d'un professionnel de l'industrie et d'un jeune talent. Je commence par notre pro du jour, qui est déjà une grande dame de notre culture. Elle a été DA chez Believe, puis de 2015 à 2019, DA est responsable marketing chez Polydor, un grand label d'Universal, et puis depuis 2020, elle est directrice artistique du Red Bull Studio et Artist Relation. C'est Pauline Regnault. Pauline, comment ça va?
Ça va, Ismaël, et toi?
Mais ça va très bien, je suis content que tu sois là. Je trouve que ça fait sens de par ton expérience déjà. Et puis parce que tu aimes donner des conseils aux jeunes artistes. T'as lancé un concept sur Instagram, le débrief, où tu fais des retours en direct à des jeunes talents sur leur musique. C'est un bête de concept.
Vraiment, merci bravo. Beaucoup, c'est gentil.
On aura l'occasion d'en reparler pendant l'émission. Face à toi, un gros talent à suivre que je suis déjà depuis un petit moment. Il a à peine 20 ans, je crois. Mais sa carrière est en train de monter fort, notamment depuis un audacieux freestyle à Planète Rap face à Maes. C'est Alibou qui est avec nous. Comment ça va, Alibou?
Ça va très bien, et toi?
Ça va très très bien. Tu vas nous faire un live en fin d'émission, c'est la tradition. Mais je mets déjà un petit extrait tout de suite d'un de tes sons pour te présenter. Ça s'appelle Lumière Bleue et c'est issu de ton dernier projet Synthèse Additive.
C'est ça.
Yeah. Dans la tête des gens, ce que je fais c'est instable, donc j'en parle pas trop. Moi je suis exigeant, tu viens à ma table, tu te dégages si t'es pas pro. Facile, mal le gueux pour moi c'est facile. Je me balade sur l'instru comme Yamakasi. Si t'es pas bon, tu restes assis. T'as su flex, t'as chopé flux et sur le texte. Wow, deux secondes je texte, t'as su
flopé. Allez, bouge, je commence avec toi sur la question de la direction artistique. Déjà, est-ce que t'as déjà travaillé avec un DA et comment ça s'est passé?
Non, actuellement j'ai jamais travaillé avec un directeur artistique qui s'occupait de mon projet ou autre. Je suis tout seul à faire mon son, mais donc la DA elle est un petit peu choisie moi tout seul et aussi avec mon beatmaker et les personnes qui m'entourent, mais c'est pas vraiment un taf de directeur artistique à part entière.
Le mot DA, il regroupe beaucoup de choses. Ouais. Je sais même pas quelle est toi ta définition d'un directeur artistique. Pour toi, c'est quoi?
Pour moi, un directeur artistique, c'est quelqu'un qui va suivre un projet pour donner un avis extérieur. Parce que quand on fait la musique, on a tendance à avoir la tête dans le guidon, on n'a pas vraiment le recul nécessaire pour juger si c'est bon ou pas. Enfin, des fois, on sait que c'est bon, mais si c'est au goût de l'industrie actuelle, etc. Et le DA, il peut avoir cet avis objectif.
Alors, il y a déjà pas mal de mots-clés là que tu as prononcé. Je me tourne vers Pauline, du coup. Notre experte sur cette question-là, quelles sont... la question est vaste, hein, du coup, mais quelles sont les différentes facettes du job de directeur artistique, qui est un métier, comme je le disais, aux frontières qui sont très larges, en fait?
À la base, pas si large que ça. C'est juste qu'avec l'évolution du marché, et là, il a fallu développer des skills additionnels. T'as vu, je parle anglais parce que pour la petite anecdote, Alibou était en examen là ce matin, donc clin d'œil à lui. Non, mais tout ça pour dire que à la base, ouais, le métier de directeur artistique, c'est vraiment très proche de la définition de ce que vient de dire Alibou. C'est vraiment une personne qui est là pour identifier déjà un artiste, son projet, sa proposition artistique, l'aider à la guider dans la bonne, dans la direction qui correspond à celle de l'artiste, et être force de proposition pour pouvoir pimper lui son ADN de base. Un DA, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va tenir un peu ce regard extérieur, comme Alibou le disait, parce que c'est pas lui qui va être derrière Pro Tools en train de t'enregistrer, choisir toutes les prods, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour t'accompagner, te conseiller, te faire t'apporter une autre vision aussi de celle que tu peux avoir individuellement.
Et alors là, on parle en gros au moment de la création, plus ou moins, mais j'imagine que le DA, il intervient parfois avant, quand il doit dénicher des talents. C'est ce que tu as fait notamment pas mal de fois, Pauline, chez Polydor et ailleurs. Et puis, il intervient aussi après, au moment de la sortie. C'est aussi une relation avec tous les partenaires de l'artiste.
Alors, bah, pas forcément. Et c'est là où le métier, il s'est vraiment démocratisé derrière et plus ouvert. C'est à partir du moment où on a eu cette espèce de fusion entre la direction artistique et le marketing. Normalement, quand tu compartimentes, par exemple, dans un label de major, tu as vraiment le département artistique, qui est donc avec plusieurs directeurs. C'est eux qui ont en charge de faire le sourcing de nouveaux talents, de proposer des contrats, de passer du temps avec les artistes pour comprendre vraiment qui ils sont et quelles propositions musicales est-ce qu'ils veulent apporter. Ensuite, une fois qu'ils terminent le projet artistique, les directeurs artistiques le confient au département du marketing. Et c'est le département du marketing où tu as des chefs de projet, responsables marketing, qui vont imaginer la stratégie adéquate au mieux par rapport au projet sorti du four studio, de comment est-ce qu'on amène le projet, comment, quel est le titre par lequel on va démarrer la prise de parole, de quelle façon en termes d'image, avec quel réalisateur, etc. Et quel est le discours, l'histoire qu'on raconte entre mon point de démarrage et l'objectif final de où on veut aller.
Ok. Toi, par rapport à tes différentes expériences, revenons du coup sur le côté musical, hein, le côté de base du directeur artistique. Est-ce qu'on peut essayer de retracer les différents types de conseils et de reculs que tu proposes aux artistes? Justement, tu as travaillé avec des artistes très différents comme Indices, qui peut changer d'identité artistique à chaque projet. Tu as travaillé avec du Nekfeu, qui est déjà très installé, avec du Big Flo Oli, au moment où tu les connais, ils sont rookies. Est-ce qu'on peut, à travers ces... toi, ton travail avec ces artistes-là, retracer un peu les différentes missions du directeur artistique?
Alors, bah, typiquement, sur les trois artistes que tu viens de citer, le seul avec lequel j'ai vraiment fait... Non, allez, un et demi, avec qui j'ai fait un vrai job de direction artistique, c'est DC's sur son album Pacifique, et Big Flo Oli, où je les ai un peu aidés. Mais c'est pour ça que je fais 0,5, parce que c'est pas là où j'ai été la plus proactive. Le directeur artistique de Big Flo Oli, ça a été Florian Touzelier, puis succédé ensuite par Pierre-Gilles Dorizon. C'est eux qui se sont vraiment occupés de toute la partie recording. Moi, je suis intervenue plus dans des, entre guillemets, choix stratégiques, mais par exemple, le rentre dans le cercle de Big Flo Oli, c'est vraiment moi qui, à un moment précis, leur ai dit « Les gars, je pense que pour votre image, de façon générale, ça pourrait être intéressant que vous repassiez par cette case-là de performance kickage, comme vous aviez fait à l'époque, parce que c'est des gars qui viennent du RC, Rap Contender, donc ça, c'est une donnée qui est importante dans leur... fiche artiste, ouais, de ADN, démarrage, ouais, ouais. Exactement. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir souvent regarder un peu d'où tu viens pour savoir où est-ce que tu dois aller.
Et toi, par exemple, pour que les gens comprennent, t'es directrice artistique à un moment dans un label. Est-ce que tu vas en studio pendant que les mecs sont en train de créer et tu leur dis ça, je le vois bien en single, ou alors ça, retravaille ce refrain? Est-ce que c'est ce genre de conseil-là que tu donnes?
Totalement. Ouais. Totalement. Et un exemple assez, assez flagrant, par exemple, quand toujours Big Flo Oli, ils sont en studio et tout, les gars, ils hésitaient entre deux titres pour faire leur reprise de parole. Bah, là, moi, j'ai tranché, je leur ai dit, les gars, sur l'album La Vraie Vie, j'ai dit, c'est avec ce titre-là, éponyme et tout, qu'on doit revenir. C'est un titre, en plus, qui avait un univers assez... assez sombre, quelque part, tu vois, où vraiment on revenait aux valeurs premières du kickage, alors qu'on sortait, tu vois, de méga tubes, genre je suis pas un gangsta, etc., tu vois. Donc il y avait vraiment cette volonté de reprouver toujours avant de se réouvrir.
Ouais. Comment tu te fais entendre des artistes, justement? Parce que j'imagine que parfois ça peut aller à l'encontre de certaines volontés artistiques qu'ils peuvent avoir. Enfin, comment on trouve cet équilibre-là?
L'équilibre, il se trouve... en dialoguant, il n'y a rien de mieux. Et là où moi, je sais que je suis un peu challengeante pour les artistes, c'est que tu peux avoir des convictions, tu peux avoir une vision, mais moi, je veux que tu puisses me la faire comprendre. Si tu n'es pas en mesure d'argumenter le pourquoi du comment tu as choisi ça, même si c'est de me dire vraiment c'est propre à moi-même, tu vois, ce genre d'argument, je les entends, hein, mais c'est important d'être convaincu, parce que c'est si t'es convaincu que t'arrives à convaincre les autres, tu vois. Donc c'est là où ça va être un dialogue entre, ok, tes envies personnelles à toi, artiste, qu'on doit absolument respecter, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, mon métier n'existe pas si l'artiste lui-même n'existe pas. Donc ça, il ne faut pas se tromper de qui doit driver qui. Nous, je nous considère un peu les DA comme des garde-fous. On est là pour vraiment s'assurer que, gros, tu m'as dit que ton objectif c'était ça, bah moi, mon job, c'est de m'assurer que tu fasses tout ce qui est en notre pouvoir à toi et moi pour que tu atteignes l'objectif que tu t'es fixé.
Je parlais en intro de... Parfois, c'est un métier dans les clichés que peuvent avoir les artistes qui peut faire peur parce que certains artistes ont l'impression qu'ils vont être dépossédés de leur truc par les décisions d'un directeur artistique. Parce qu'ils se disent, parfois, la maison de disque va vouloir m'imposer un truc et c'est pas ce que je veux. La position de directeur artistique, elle est à mi-chemin entre l'artiste et la maison de disque. Comment tu concilies justement ça ?
Comment tu concilies les besoins, entre guillemets, de la maison de disque ? Bah, en fait, c'est là où vraiment c'est très important, et je préfère le souligner direct, l'importance du choix de vos partenaires de travail. Dites-vous, c'est comme un mariage. Quand tu es artiste et que tu vas choisir ton label, ta maison de disque ou autre, c'est des gens, en fait, qui vont être tes représentants auprès des magasins physiques, pour mettre tes albums dans les bacs, mais aussi des magasins digitaux comme Spotify, Deezer, etc. Si déjà vous n'avez pas la même vision du couple, bah pourquoi vous vous mettez ensemble ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc cette compatibilité de travail-là, n'hésitez pas à la tester sur le moyen terme, parce que si vous vous dites juste « Ok, moi ce qui m'intéresse, c'est une avance, machin, ouais j'ai vu, il travaille un tel et tout, ça a l'air lourd », mais vous ne connaissez pas les dessous, la typologie de contrat qui concerne un tel ou autre. Donc renseignez-vous un maximum et surtout passez du temps avec les êtres humains qui vont défendre votre projet. C'est le plus important.
Ce que tu es en train de dire là, c'est que par exemple, là, nous on s'adresse beaucoup aux jeunes artistes qui n'ont pas encore signé forcément. Si je suis en rendez-vous avec un label pour un contrat de licence ou de distrib, peu importe, il faut que j'essaie de me renseigner sur qui va accompagner mon projet, par exemple en tant que
totalement,
directeur artistique.
Exactement, parce que si ton directeur artistique qui va te suivre, il n'a pas la même vision que toi, ou il a des idées qui vont à l'encontre totale de ce que toi t'imagines, versus un directeur artistique dans un autre label qui va totalement comprendre qui t'es et qui va dire « Eh, mais si t'as envie de faire ça, moi je connais tel guitariste, il est grave chaud dans des riffs genre grunge qu'on peut apporter sur tes instrus, trap et tout. » Et là, t'as une vraie proposition avec du fond. Et c'est ça, en fait, que t'es censé aller chercher chez Zendaya. C'est qu'est-ce que lui, il va t'apporter de plus que toi, tout seul, tu n'es pas capable de faire.
À l'ébout, toi, tu ressens le besoin là d'avoir justement cet accompagnement là artistique ou pas encore dans ta musique?
Moi personnellement, je ressens le besoin plus ou moins. C'est que des fois, en créant les morceaux, c'est sûr que j'ai l'avis de mon ingé son qui est aussi mon beatmaker. On travaille beaucoup ensemble, mais tous les deux, on a la tête dans le guidon et c'est sûr qu'il n'y a pas l'avis extérieur nécessaire. Et des fois, je me sens un peu seul et c'est sûr que le besoin, il est là. D'être entouré d'une équipe, là on parle du directeur artistique, mais c'est sûr qu'il y a d'autres, casquettes dans une équipe qui entoure un artiste, il y a le chef de projet, etc. Mais au niveau de la direction artistique, moi c'est un problème que... Je sais pas si c'est un problème vraiment, parce que ça se trouve avec le temps aussi, c'est pas quelque chose qu'on trouve du jour au lendemain, mais la direction artistique, savoir qu'est-ce qu'on veut renvoyer comme image, autant dans les visuels que dans l'audio, c'est un truc super important et c'est un truc qui doit être défini clairement. Même si ça se fait un peu au feeling, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux renvoyer. Moi, c'est quelque chose qui pêche un petit peu mon niveau.
Ah, parce que tu le dis souvent dans tes débriefs, Pauline, là, on parlait de musique jusqu'à présent, mais il y a aussi toute la dimension image maintenant de plus en plus. Et c'est quasiment indissociable. Et toi, tu donnes beaucoup de conseils justement là-dessus, souvent.
Ouais, carrément. Bah, parce que, comme tu l'as dit, c'est indissociable aujourd'hui, tu vois. Et c'est des éléments auxquels on peut... Enfin, le public peut s'accrocher aussi, s'identifier. Donc vraiment, c'est important d'en avoir conscience et d'explorer tous les contours de ça. en termes de priorisation, ça reste quand même l'audio en premier et l'image en second, parce que la musique, c'est avec les oreilles avant de le faire avec les yeux. Donc c'est important vraiment de ne pas se tromper là-dessus.
Ah, que maintenant, bah, non, mais moi je suis d'accord avec ça, mais le problème c'est que le public, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a, c'est plutôt avec les yeux que les oreilles.
Bah, en fait, si ça se passe avec les yeux, à mon sens, hein, c'est que là, du coup, c'est obligé, t'as pas un projet en termes d'identité audio qui va être unique. Ça peut être le cas de choisir l'image pour se différencier d'une typologie de rap en particulier. Tu vois ce que je veux dire ? Mm-hmm. Ou c'est l'image qui va primer sur... Mais moi, je considère que c'est pas ça qui va te faire une carrière sur le moyen long terme.
Ouais, je suis d'accord. C'est
sûr. Donc, one shot, pourquoi pas, mais c'est pour dire à quel point aussi l'image, en effet, est importante.
Là, tu parles de moyen-long terme, et c'est un truc intéressant et que je voudrais qu'on s'arrête vite fait dessus, c'est que quand tu es directrice artistique, tu concilies tu vois, les attentes entre ce qui marche maintenant, parce que quand tu donnes un conseil à un artiste, c'est aussi en fonction de son identité, pour que ça colle avec ce qui peut marcher à un instant donné, tu vois, et la construction plus long terme. Comment tu mélanges les deux, en fait?
Bah, quand tu signes quelqu'un, après ça dépend, tu vois, tu peux avoir des objectifs de ce qu'on appelle des one-shot un peu, tu vois, en mode, ok, on fait un coup single, etc. Bien que je suis très sincère avec vous, j'ai pas entendu ça depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Là, l'objectif, c'est vraiment quand même, normalement, de signer des artistes vraiment sur des carrières, quoi. Ne serait-ce qu'un contrat d'artiste, par exemple, la durée minimum d'un contrat d'artiste, c'est 3 ans. Donc en 3 ans, tu as le temps d'en faire des projets, normalement. Donc déjà, tu sais que tu as un engagement sur une durée, sur tous les contrats qui peuvent exister. Donc à partir de ce moment-là, bah, tu es censé te dire, ok, l'artiste que je vois devant moi en rendez-vous, où est-ce que je le vois, comment je le vois dans 3 ans. Si tu ne sais pas tout de suite répondre à cette question, en tout cas avec des grands piliers de direction, bah, je ne vois pas l'intérêt que tu as à le signer, quoi.
Toi, à chaque fois que tu vois des jeunes talents, tu te projettes directement sur 3, 4, 5 ans.
Ouais, et ce que je vais explorer lors des rendez-vous avec eux, c'est le niveau de profondeur et ce que j'appelle ce qu'ils gardent sous la semelle un peu, tu vois. C'est, il y a toujours ce jus qu'un artiste il est capable de donner, notamment en performance pure, type freestyle, etc. Mais est-ce que dans ses freestyles, il a vraiment fait, par exemple, que des ego trips, que des trucs de mala, etc. Est-ce qu'il a été déjà un peu creusé sur qui il est vraiment à l'intérieur de lui, sa vie personnelle, à quel point est-ce qu'il est capable de se livrer, à quel point est-ce qu'il est capable de vivre chaque mot en termes d'interprétation, ce qu'il ressent réellement. Tout ça, c'est des curseurs et des données qui te permettent de voir si quelqu'un, il en a sous la semelle ou pas. Et typiquement, ce que j'aime, c'est aller creuser dans ça, voir la profondeur d'un artiste, parce que très souvent, surtout dans le rap, ils aiment bien rester en surface, tu vois. C'est très difficile pour un artiste d'aller au fin fond de leur peur, de ce qu'ils peuvent vivre vraiment au quotidien, de leur passé. C'est beaucoup du paraître, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et moi, c'est ça qui m'intéresse.
Alors, c'est super intéressant, parce que là, donc, tu parles un peu de profondeur humaine, psychologique, musicale.
Totalement.
Et tout. Ça, c'est des choses que tu vas vraiment regarder quand tu vas avoir des jeunes talents. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, si je me présente à toi, que j'arrive avec un EP, que je te le présente dans le débrief ou autre, quels sont les autres paramètres et critères que tu vas essayer d'évaluer?
Alors, le paramètre là qu'on vient d'évoquer, c'est un paramètre qui arrive en niveau 3 d'évaluation. Hein.
Okay.
C'est vraiment un des derniers paliers. Le tout premier, il est basique, mais c'est très lié à la technique. C'est, ok, quelle typologie de rap tu fais? Quelles sont tes valeurs ajoutées? En quoi t'es bon? En quoi t'es un peu moins bon? Est-ce que dans ce que, où t'es un peu moins bon, est-ce que tu as une marge de progression possible? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'améliorer ou pas? Comment est-ce que tu envisages de l'améliorer? En vrai, c'est un peu, pour ceux qui font des études de com, moi c'est un peu ce que j'ai fait, mais c'est un peu la même chose. Tu fais ce qu'on appelle un SWOT, tu vois, état des lieux, force, faiblesse, menace, opportunité. Tu fais vraiment ça autour d'un artiste. Notre job, c'est quand même normalement d'évaluer et d'être capable d'évaluer objectivement tout ce qui est capable de faire un artiste. Donc ça peut paraître un peu froid et marketing, Oui, ça l'est, mais parce que c'est un travail et c'est une industrie. Ce qui est fort là-dedans, c'est quand tu tombes sur des DA qui sont capables d'associer à la fois cette figure froide un peu d'évaluation stricte avec la sensibilité émotionnelle. Et alors là, quand t'as le combo, bah, c'est le feu.
Ouais. Vous êtes déjà croisés tous les deux,
ouais.
Puisque justement Alebout a participé au débrief, c'était le débrief numéro 4 en mars 2020. Quel conseil tu lui as donné, comment ça s'est passé, votre expérience là-dessus pour que ça serve d'exemple aussi aux jeunes artistes qui nous écoutent.
Si je peux me permettre, je veux bien avoir son avis à lui parce que moi j'ai des souvenirs très précis et ça a fait péter les plombs à son équipe. On dit pas depuis le temps et tout, mais oui, il y a des profils qui me marquent plus que d'autres. Et en plus, j'ai même pas pu aller, tu sais, faire une petite genre anti-sèche et tout parce qu'à l'époque, le 4, je pouvais pas le mettre en replay encore. C'était exact. Pas basculé en
il
IGTV.
Pas dispo, j'ai cherché.
Il est pas dispo, donc c'est que sur la mémoire. Donc je suis curieuse de voir ce que t'en as retenu.
Bah, moi, sincèrement, le conseil premier qu'elle m'avait donné, c'était déjà de... En fait, je sais rapper. En fait, il y avait vraiment un gros décalage entre mes freestyles et les morceaux que je mettais sur les plateformes de streaming, c'est-à-dire à l'époque, les 8 morceaux qui étaient présents dans ma mixtape. Donc, sur les freestyles, c'est des freestyles. Pendant une minute, t'as une minute pour performer, kicker, montrer que t'es technique. Et sur les morceaux, je voulais aller chercher plus loin, chercher des pré-refrains, des refrains, chantonner, ceci, cela... Et peut-être que là, au niveau justement de la direction artistique, c'était un peu éloigné de ce que moi je renvoie et ce que je suis censé renvoyer et ce que je sais faire, parce que c'est peut-être pas quelque chose non plus que je maîtrisais à fond il y a un an, l'autotune, etc., comment faire des bons refrains, des bons pré-refrains dans les bonnes notes, etc. Donc ça, c'est des trucs qui viennent avec le temps, mais en gros, je l'avais fait un morceau à la fin du débrief, en freestyle, c'était du coup Gris, qui est sorti 8 mois après, là, c'est sorti en décembre dernier. Et elle m'a dit, c'est ça qu'il faut faire en fait. Elle m'avait comparé à Zixo dans les types d'instru. C'était une instru un peu à l'ancienne, 90 BPM, où ça ressemble à du boom bap, mais modernisé. Et elle m'a dit, si c'est ça que tu kiffes faire, si c'est ça où t'es à l'aise, faut que tu ailles là-dedans. Et en fait, le truc, c'est de trouver un truc singulier, pas faire ce qui ressemble à tout le monde. Et moi, quand j'essayais de faire des refrains, des trucs, c'est parce que je voyais que c'est ça qui marchait et je voulais essayer de faire pareil. Mais en vrai, il faut trouver un truc singulier. Et bah, elle s'est pas trompée puisque le morceau final, c'est celui qui comptabilise le plus de streams. Après sa sortie, là, ça fait peut-être 2 mois et demi qu'il est sorti. Donc voilà, l'œil de la DA.
Ouais. Non, mais ouais, c'est flagrant. Et je me souviens, je lui ai dit, mais t'es hyper fort en kickage, gros. Accentue sur ça. Et les gens, c'est ça qu'ils veulent. Là, tu me mets en transe quand j'écoute un freestyle de toi et que t'es en interprétation max, que je vois ton visage, il est dedans, tu vois, il y a tout correspond. Go, n'aie pas peur, vas-y. OK, ça passera pas en airplay demain. Mais le temps que tu donnes ça aux gens dans le présent, travaille tes skills de mélodie, top line, refrain, écriture avec de la profondeur. Et une fois que t'auras donné un premier projet très ancré et en lien avec ce que les gens connaissent de toi et aiment de toi, parce qu'il avait une communauté, enfin, il a une communauté, tu vois. Une fois que t'as livré ça, là, tu vas commencer à faire des titres qui vont faire les transitions vers l'ouverture. Mais tu vois, c'est un truc ça se time, en fait. Et ouais. C'est pour ça que sur lui... Mais là, j'ai une projection sur lui sur 3 ans. Tu vois ce qu'on évoquait tout à l'heure. Sur Alebout, c'est facile de voir une projection sur lui à 3 ans. Pas de problème, parce qu'il en a sous la semelle.
La notion de temporalité, elle est vachement importante. En fait, c'est justement ça que peut apporter aussi le DA. C'est de voir de plus haut, en fait.
C'est ça.
Un rythme cohérent. Parce que souvent, en fait, la grande frayeur des artistes en développement, c'est « Ah, au secours, il faut que j'arrive à sortir du lot et à exister à tout prix. » Oui, mais sauf que si tu existes pour exister, mais qu'au final, tu n'amènes pas un cadre à chaque freestyle ou performance que tu vas délivrer, ben en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Prépare les gens, apprends à teaser tes titres. À dire, les gars, rendez-vous à tel moment. Hey, on va choisir l'instru ensemble. Je vous fais écouter, c'est vous qui choisissez. Intégrez les gens au maximum. Plus vous allez faire ça, plus votre public il va se sentir important dans vos directions, enfin vos décisions, pardon, pour définir ensemble une direction. Et là, après, c'est des tips, comme le nom de l'émission, tu vois. Mais c'est important, en fait. et ne négligez personne, c'est-à-dire que vous ayez 23 abonnés sur votre compte Insta, c'est 23 personnes qui potentiellement peuvent elles-mêmes parler à 23 autres personnes, etc. etc. Donc c'est que comme ça que ça se consolide et ça se construit.
Et il y a un truc que je t'ai souvent entendu dire dans le débrief aussi, qui est un peu complémentaire de ça, c'est parfois tu dis aux jeunes artistes en développement, mais en fait, pourquoi vous mettez une pression pour sortir là alors que vous n'êtes pas forcément prêt?
Et genre, pas en fait, attendu entre,
ouais,
aussi.
Voilà, en gros, vous n'êtes pas attendu particulièrement. Bah ouais. Pourquoi vous mettez une pression? Et c'est vrai qu'il y a ce stress-là.
Ah, grave, grave. Après, je comprends, parce qu'en même temps, si, par exemple, Alebou, il avait pas sorti de contenu, il n'aurait pas la fanbase qu'il a. Donc, c'est là où il faut trouver la bonne cohérence. Mais par exemple, ne sortez plus, arrêtez, s'il vous plaît, même de sortir un contenu par semaine. C'est pas efficace. Travaillez vos contenus de A à Z dans la direction artistique, le choix de la prod, le thème, qu'est-ce que vous allez aborder, votre champ lexical dans le texte. Parce que oui, malgré la forme, le fond compte encore. Et tu vois, c'est quand t'arrives à aligner tous ces contenus-là, mais bah, c'est là où tu peux avoir des coups de magie qui sont incroyables. Mais si t'oublies un paramètre, bah, tu peux peut-être faire un truc mouais. Et si c'est mouais, bah, qu'est-ce qui va faire qu'on va te remarquer toi plus qu'un autre?
Ouais. Quel conseil, toi, tu donnes le plus souvent là dans les débriefs? Quels sont les trucs qui reviennent le plus en ce moment? Les gros travers un peu à éviter, quoi, tu vois.
J'aime faire de tout. Et du coup, bah, dans un projet, je fais tout. Ça, pour moi, c'est pas bon. C'est bien de se tester, parce que ça, c'est ce que j'appelle un peu le laboratoire. En labo, t'es obligé, fais tout ce que tu peux dans tous les sens pour, une fois que tu prends un peu de recul, te dire « Ok, ça, ça a de la gueule à côté de ça qui ressemble à, comme on disait, la singularité. » Et une fois que tu arrives à faire ce premier taf de décoction un peu, bah là, tu sors le meilleur jus de toi-même et tu fonces dedans, tu accentues. C'est comme après un arbre généalogique, tu vois, t'as ton tronc principal et ensuite tu crées tous les arbres, enfin toutes les branches additionnelles.
Ok. Là-dessus, tout à l'heure, Alebou, il parlait du fait que voilà, ton regard lui a permis de réorienter les choses. On n'est pas toujours en contact avec un DA si on n'est pas signé. Qui peut faire le taf en fait à la place? Est-ce que ça existe les DA indépendants? Je dis n'importe quoi. Hein. Est-ce qu'il faut aller chercher est-ce que ça peut être le rôle du manager à un moment? Est-ce que qui peut faire office de DA quand on n'est pas signé et qu'on n'a pas un DA titré?
La meilleure des solutions que je donnerais, hein, dans le cas où on n'est pas signé, on est tout seul, on est indépendant. Je ne dis pas que c'est la solution ultime, mais par défaut, c'en est une. C'est prenez un panel de gens qui est autour de vous. Et quand je dis un panel, c'est important. C'est-à-dire ne comptez pas sur une ou deux personnes qui, en plus, sont peut-être que dans un entourage très, très proche, donc peut-être avec les mêmes influences, les mêmes goûts. Essayez d'ouvrir un tout petit peu, mais le principal, c'est ce panel là il doit être composé de gens qui consomment le type de musique qui est du rap et surtout qui ont un âge clé, quoi, tu vois. Si tu vas aller voir mon grand frère qui a 42 ans et qui écoutait du rap dans les années 90 ou 2000, bah ça va pas t'apporter la même critique que les petits qui ont 15 piges et qui sont ceux qui vont streamer ton projet demain, tu vois. Et c'est en ça que c'est important. Et essayez, alors ça c'est pas simple, hein, mais essayez vraiment de leur demander d'être critiques avec de la justification. Parce que, encore une fois, si on arrive à argumenter le pourquoi on n'aime pas ce titre-là, qu'est-ce qui nous a dérangé dans cet instru-là, et ben on peut être plus précis et savoir comment corriger derrière éventuellement.
Alebou, est-ce que tu as ton panel?
Ouais, moi j'ai mon panel, Ça c'est super important et en vrai c'est la base, mais le panel, faut faire très attention, faut pas des potes entre guillemets fans, parce que ça
c'est le pire.
Tu leur envoies le son, ils disent « Oh c'est lourd » avec trois points d'exclamation. Genre y a aucun argument, ils disent juste « C'est lourd », tu leur envoies 5 sons en 2 ans, ils disent tout le temps « C'est lourd ». Bah, normalement je leur envoie plus et je préfère quelqu'un qui me dit « C'est pété ». Et qui me dit non, là ça te ressemble pas. Moi par exemple, pour donner un exemple très précis, dans la mixtape, il y a un morceau qui s'appelle Flashy. Et je l'ai pas mis dans la réédition exprès, parce que justement ça me ressemblait pas. Et avant de le sortir, moi je voulais pas le sortir. Mon panel d'expérience ne voulait pas le sortir. Et il n'y en a que un qui voulait sortir, c'était mon ingé son, beatmaker aussi. Et lui, il me disait, non, c'est le morceau qui va le plus marcher de la réédition, tout ça, de la mixtape, pardon. Et au final, il s'est trompé, mais je l'ai sorti juste parce que lui, il croyait à fond au morceau. Et il disait que c'était dans l'air du temps, etc. Mais sinon, globalement, si je m'étais fié à la vie générale, en vrai de vrai, même moi, je ne le sentais pas. Et ouais, faut avoir un bon panel de potes qui sont objectifs et qui ne sont pas, entre guillemets, des sauceurs, quoi.
Et c'est compliqué ça, parce que parfois il y a plein d'histoires où les artistes voulaient pas sortir un truc, ouais. Les DA leur ont conseillé, et en fait c'est ça qui a cartonné, tu vois.
Oui, parce que dans ces cas-là, c'est que ça doit certainement répondre à des codes, comme Allez-vous l'évoquait tout à l'heure, qui sont propres au marché de la musique. Et là, c'est encore autre chose. Et un taf de DA, c'est d'arriver à combiner, et si tu signes quelqu'un, c'est que normalement il est censé rentrer quand même en partie sur une des différentes cordes, tu vois, du marché de la musique. Mais d'où l'importance encore d'avoir la vision. C'est parce qu'il se peut qu'il y ait des projets, et beaucoup de projets urbains se construisent comme ça, hein, sans airplay, sans radio, sans télé, pas de problème. Mais donc, du coup, ça coche beaucoup de cases liées au web. Mais souvent, la typologie des titres que tu évoques, Isma, c'est des titres qui sont justement airplay, qui vont pouvoir être travaillés en radio, apporter du coup un level up énorme à l'artiste que lui-même n'espérait pas voir. Meilleur exemple que j'ai à date, quand Nekfeu il sort On Verra, il a absolument pas, il est pas pour le travailler, tu vois, c'est pas du tout son titre préféré. Mais il comprend les enjeux de, il accepte de suivre la recommandation plus industrie, marché de la musique, et c'est le titre qui rentre en radio, ouais. Et qui fait que ça...
Qui le propulse, quoi.
Bien sûr.
Ouais.
Mais là, on arrive, je pense, à un stade de la carrière de l'artiste qui n'est pas le même qu'un artiste en développement, et l'arbre avec les branches, etc., il est quand même...
Ah oui, il a été consolidé.
Ouais, il a été consolidé. Et là,
ça peut se permettre, tu vois, petit...
Ça fait partie des branches qu'on peut pousser. Mais là, pour les artistes en développement, ce qui est important, c'est d'avoir le tronc et de faire pousser cet arbre-là, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Parfaite métaphore, j'adore cette métaphore.
Bah, ouais, super.
Ça marche très bien.
Appelez-moi quand vous avez besoin.
Pauline, est-ce que ton métier, il a beaucoup évolué avec l'explosion du stream? Parce qu'en gros, on voit que... Les artistes sont, surtout les jeunes artistes, sont de plus en plus productifs, ça sort de plus en plus. Est-ce que tu as autant le temps de travailler, puisqu'on parlait de la temporalité, de travailler justement la DA sur chaque projet? Comment ton métier a évolué en fait ces dernières années?
Moi j'ai l'impression que c'est pas vraiment le mien qui a évolué, c'est celui de l'artiste. C'est le métier de l'artiste qui a évolué, parce qu'en fait il y a une espèce justement de pression du temps que tous les artistes ressentent aujourd'hui, qui ressentaient peut-être un peu moins avant, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression. Mais moi, je préfère un milliard de... Enfin, c'est toujours ce que je dis aux gars avec qui je bosse. Je leur dis, est-ce que tu préfères un projet chips qu'on va prendre, consommer en une fois, et en fait, bah, y a tellement pas eu le travail nécessaire dessus qu'on va très vite passer à autre chose? Ou est-ce que tu préfères un projet qui ait pris plus de temps, mais où on est tout aligné, le fond, la forme, le concept, d'aller jusqu'au détail du poil de chameau, tu vois, ce genre de truc, moi, qui me passionne, jusqu'à réfléchir les opérations promotionnelles ou marketing que tu vas associer au projet, à quel timing pour déclencher quoi? Bah... Moi, je sais pas, mais moi, personnellement, j'ai tendance à préférer bosser sur des classiques de fou.
Mais pour les, tu conseilles quand même, là, j'ai l'impression que c'est ça que tu essaies de véhiculer pour tous les jeunes artistes, de peut-être un peu moins se presser là quand même maintenant. On est un peu sorti de la phase, tu sais, où genre, les mecs, ils charbonnent de fou, mais pour sortir tout le temps, même tu disais tout à l'heure, chaque semaine et tout.
Bah ça, c'est un vrai conseil, par exemple, que je donne sur quasiment tous les débriefs. Je dis, les gars... Vu le marché actuel et comment tout fonctionne, il faut que vous soyez en mesure de faire les deux. Prévoyez-vous du temps de studio qui est dédié pour les contenus additionnels, ceux qui doivent sortir pour exister, maintenir une espèce de régularité. Pendant ce temps-là, vous travaillez en studio les titres qui font partie d'un projet avec un vrai concept de fond. Et je crois que ça, c'est un truc que je vous avais dit aussi à Alebou et toute son équipe, comme j'ai pu le dire à énormément d'artistes dans le débrief. Ça, c'est un vrai truc qui revient. C'est comment je fais, etc. Bah, la solution, c'est ça, c'est de te dire, ok, aujourd'hui, je vais au studio, je vais enregistrer que des freestyles IGTV. Mais tu t'en fais un petit stock et tout, comme ça tu les as de déco, c'est bien. Et à côté, vu que ça c'est fait, que tu vas avoir ton espèce de régularité de fond, périodicité de sortie, machin, bah, tu peux te permettre de prendre plus de temps pour travailler des choses de fond.
C'est un truc qui te parle ça, Lebo ?
Ouais, clairement, bah, c'était ma stratégie au moment de la sortie de la mixtape. Donc c'est sorti en février 2020. Moi, à partir de septembre, j'ai commencé à enregistrer la mixtape. Je savais que ça allait sortir, allez, le temps de la préparer d'ici 4-5 mois. Je la bossais en sous-marin, personne n'était au courant de ça. Et à côté, tous les mois, j'enchaînais freestyle avec des concours Unique de rap ou le rap français ou sur des pages Insta. Et il y avait vraiment... C'était dissocié, en fait. Les freestyles, c'est une chose et le projet, c'est une autre chose. Donc, c'était vraiment pas du tout... les mêmes approches d'écriture, les mêmes approches... Ben c'est pour ça qu'il y a toute une différence qu'avait remarqué Pauline entre mes freestyles et les morceaux. Mais l'un ne peut pas exister sans l'autre, en fait. Si la mixtape a bien marché que, à mon niveau, hein, si elle a bien marché à mon niveau, c'est parce que j'enchaînais les freestyles à côté et que ça permettait d'avoir un flux de personnes qui arrivaient. Après, je mettais à chaque fois une story. Ouais, la mixtape est sortie, ceci, cela, rediriger les personnes vers les plateformes. Et si j'avais pas eu ça... Bah, il y aurait eu moins d'écoute sur les plateformes et moins de personnes fidèles, parce que ceux qui sont fidèles, c'est pas les personnes qui regardent les freestyles Instagram. Ça, c'est de l'entertainment, c'est...
Exact.
Instagram, c'est... Voilà, quoi, c'est... Au bout d'un moment, bah, il y a le visuel qui compte beaucoup, plus que la musique au bout d'un moment. C'est pour ça que j'ai arrêté les freestyles aussi Instagram, mais la vraie musique, ça se passe sur les plateformes et ça se passe sur des morceaux de 3 minutes, 4 minutes où tu peux faire un vrai projet.
Ouais, faut donc jouer sur ça. Les deux tableaux.
Faut jouer sur les deux
exact.
Tableaux.
Exact.
Ouais, ok. Bah nous aussi, on est soumis à la pression du temps, donc on arrive malheureusement déjà à la fin de l'épisode. Mais c'était une super conversation. Merci pour tous ces précieux conseils. Je pense que ça aura servi à beaucoup. Donc, allez bout, Pauline Regnault, nos invités aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi pour l'invite.
Merci.
Grand plaisir. On se quitte évidemment pas comme ça parce que on va laisser la place au live, à la musique. On est quand même là pour ça. C'est allez bout qui va s'en charger, sauf si Pauline t'a un 16 ans.
Non, chacun son métier, les gars. Moi,
M-back,
je
M-back.
Elle
fait mes bacs.
Je suis sûr qu'à force de donner des conseils, Pauline, t'as des skills. Tu vois, c'est sûr.
C'est sûr, c'est sûr. Elle a un petit texte caché dans son téléphone.
Il faut venir en studio avec moi.
Ah, pub pour le Red Bull Studio. Comment on fait pour passer au Red Bull Studio? C'est réservé à qui? Comment vous communiquez là-dessus?
En fait, on ne communique pas, c'est pas réservable, c'est d'accord. Uniquement sur de la programmation d'accord. Artistique. Et du coup, c'est moi qui en suis en charge. Et donc voilà quoi.
Ok, en tout cas, c'est un très beau studio. J'ai eu l'occasion de passer.
Ouais,
c'est
merci.
Très beau. Allez, on part sur quoi? C'est un freestyle?
Ouais, freestyle. Bah là, on en parle depuis tout à l'heure. On va kicker un petit peu.
Allez, freestyle inédit. Le live est filmé. Vous pourrez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Groover. Merci à Groover pour la confiance. Merci Marguerite pour l'organisation. Merci au poste général de nous accueillir, de nous soutenir et de nous diffuser, pardon. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Groover Tips. D'ici là, croyez en vous surtout, c'est le plus important. Ciao.
Yeah.
Brr. Et puis. Yeah. Je suis pire que Freezer, tu me connais pas, ce que tu vois c'est le teaser. Je peux faire kiffer ta grand-mère et ta petite sœur sur mes deux yeux que je les vois dans le viseur. Fiou, je vais les calmer, il me suffit d'envoyer un camé. Ah, je peux pas dépanner, si tu veux poche tard cellophané. On est peut-être passé par le même chemin, mais on va pas au même endroit. Dans ma tête j'imagine déjà demain en pratiquant le même emploi que Tupac Shakur, suivre le même parcours, mais pour l'instant j'ai cours, je dois me lever tous les jours, c'est ça la réalité. Y'a beaucoup trop de rivalité, je devrais peut-être me faire à l'idée que personne ne va me valider. On est toujours sali par plus sale que soi. J'ai fait confiance à des gens, je regrette. Tu veux me baiser, faudra t'y prendre à deux fois. Je suis pas de ceux qui donnent leur cul en le fret. J'ai appris qu'un pote pute la mettre à l'envers à cause d'une histoire de meuf. J'ai appris que des gars peuvent te souhaiter l'enfer et te dire wesh mon ref. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait ensemble pour que tu m'appelles mon frère? Les seuls souvenirs que j'ai de toi, c'est que j'en ai pas, ça c'est clair. Quand t'es tout seul, t'es tout mignon. Tu fais le fou quand t'es à neuf. Autant dire que tu tires à blanc ton Glock et j'écharpe comme le boule de ta meuf. Bah ouais, faut dire la vérité. Tout ce que j'ai, moi, je l'ai mérité. Je recherche pas la célébrité. Je veux l'assassin, dip, c'est IT. Brr, tu peux augmenter les basses. Oh, IM Beats. Tu dis que tu big grave, mais tu fais juste Uber Eats. Yeah, la prod, je la casse. Ouh, poussez-vous, faites de la place. Ouh, je suis dans l'impasse, je me lasse de celui que je vois dans la glace. Ouh, y'a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, mais je demande que 20k pour mon Bercy. Obligé de commettre l'adultère, y'a trop de tentations, mais non merci. Tes rappeurs, je les crée un par un. Personne te connaît, viens pas nous faire le parrain. Oh, tu parles mandarin. Oh, hey. Hey, ce n'est pas un test, je suis venu pour tout graille, donc me propose pas les restes. Non, 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 ce n'est pas un test, Groover, brr.
Yeah, yeah.
Tous les jours un nouveau scandale dans la presse, les mêmes qui triment, les mêmes qui tapent dans la caisse, les mêmes vitrines, les mêmes qui tapent dans les fesses de ces victimes. Ne me dis pas que le sexe c'est le choix préférentiel de ces filles de joie. Se mettre en scène dans la ville le soir cache peut-être une faible estime de soi. Et ne parle, venez pas dans mes bails, j'ai trop la dalle, je craille tout et de taille. Viens jouer rapide comme Jackie Chan, comme la 4G. Talent caché deviendra pas, talent gâché, sachez le gros frappe comme sachet de maintenant tout. Sachez que ça se dispute à coup de chais, que je sais que c'est l'amour qui mène le truc, mais la haine n'est pas très loin. Je connais des mecs qui sont des putes, mais aucun fils de chouin. Et sur le RMC, je te dis bravo, j'arrive en 2-2, t'es mal les coins. Et sur ma mère, merci pour les travaux, t'es mal à le gueule, le man est soin.
Oh, il est chaud.
Merci.
Super.
C'est bon,
c'était trop bien.
Bah oui, il est trop chaud.
Putain, ce one shot incroyable.
C'était une émission du Poste Général.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.